Aujourd'hui, on a pensé que c'était intéressant de parler un petit peu de ce qui se passe à la ZAD, puisque il y a eu une intervention policière depuis lundi, une opération policière de grande ampleur à la ZAD. Du coup, pour présenter un petit peu, pour revenir un peu sur ce que c'est que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en fait, c'est un foyer de lutte depuis plusieurs années. Donc, c'est une occupation illégale et joyeuse de plusieurs hectares de bocage en réponse au projet d'aéroport du Grand Ouest. Donc, le projet d'aéroport, lui, remonte aux années 60 pour faire un bref historique. Et c'est dans les 10 ans qui ont suivi qu'ont été créés les premiers collectifs de résistance au projet qui ont été portés par des paysans paysannes qui refusaient notamment d'être expulsés de leurs terres. Alors après, pendant plusieurs décennies, jusque dans les années 2000, le projet a été plus ou moins mis de côté. Et c'est en 2007 que la commission en charge de l'enquête d'utilité publique a donné un avis favorable au projet. Donc voilà. Et en 2009, les occupants de la zone ont émis un appel plus large à occuper l'espace. Et c'est à ce moment-là que la ZAD a été beaucoup plus peuplée par des militants, militantes libertaires, écologistes. Et autres, et qu'il y a eu donc vraiment une occupation de plus grande ampleur sur la ZAD et la construction de cabanes, de lieux de vie. En 2011, le projet est attribué au géant de la construction Vinci, et c'est à ce moment-là que les militantes militants entreprennent des actions de sabotage des équipements Vinci, de ses filiales, et de mener cette lutte sur le terrain. En 2012, et ça nous intéresse parce qu'en fait, c'est un peu la dernière date d'opération policière de grande ampleur. Donc, il y a une première mesure d'expulsion de la zone. C'est ce qu'on va appeler l'opération César. Il y a 1200 gendarmes qui sont mobilisés. Donc, les habitants se défendent. Ils reconstruisent chaque soir les barricades et ils tiennent face aux flics qui sont assez désorganisés en fait, puisqu'ils ne connaissent pas vraiment le terrain et que du coup ça se solde plutôt par une victoire en fait des occupants de la ZAD. Donc cette opération en fait, même si elle a été violente, en fait elle a donné de la force au mouvement et c'est notamment à partir de 2012 que se sont structurés beaucoup de lieux d'accueil de la ZAD, son site internet. Donc je le dis maintenant, je le rappellerai plus tard. C'est https://zad.nadir.org où je vous invite à aller voir les infos, à écouter aussi la radio de la ZAD, Radio Klaxon, qui a été. Parce qu'en fait, ils ont coupé l'électricité cette semaine, où je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça a été redirigé vers des nouvelles ondes. Je crois que c'est 105.5 si vous voulez écouter. Mais sinon, vous avez toutes les infos sur le site zadnadir.org. Voilà. Donc là, on va passer un petit son et puis on sera tout de suite après en lien avec une copine qui va nous parler de comment ça se passe aujourd'hui à la ZAD. Là, on va écouter un son pour le moment, une musique.
Vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, yes, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Vamos a levantar todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
tiempo soy la besana. Desde el torno y el telar, todos los hijos del pueblo, a la huelga federal, a la huelga Aries, a la huelga Hacienda, a la huelga Madre, yo voy también, a la huelga Hacienda, a la huelga Mil, yo por ellos Madre y ellos por mí.
Alors, on est de retour sur Canal Sud 92.2. On se disait hors antenne que oui, on parlait de l'opération César en 2012, mais qu'il y avait surtout une réponse de la part des militants militantes le 17 novembre 2012, avec un appel national où on était plus de 40 000 sur la zone à défendre la zone, et que si l'opération César avait été assez forte, ben en fait, l'opération, la réponse Astérix n'avait pas moins balèze. Alors, est-ce qu'on est en communication avec Prune ?
Oui, je crois.
Salut Prune, comment vas-tu ?
C'est un peu compliqué, mais ça va.
D'accord. Est-ce que tu... Ouais, je voulais te poser un peu une question rapidement. C'est quoi le contexte dans lequel se déroule cette opération policière là, qui a lieu depuis lundi dernier ?
Alors déjà, je voulais juste revenir, c'est bien que vous ayez répété que le 17 novembre 2012, il y avait eu une manifestation de réoccupation de 40 000 personnes, et c'est vraiment cette mobilisation-là, en fait, qui a permis de reprendre la zone et qui a permis tout ce qui s'est créé derrière. C'est tous les gens qui sont venus à tous les festivals, etc. Et c'est tous les gens qui, j'espère, vont continuer à venir au prochain rendez-vous, qui vont permettre, en fait, de déjouer le projet du gouvernement. Pour le contexte de l'expulsion, en fait, le projet de l'aéroport, c'est pas que, mais c'est quand même beaucoup un projet du PS, parce que Nantes, en fait, c'est un haut lieu du Parti Socialiste Français. C'était le projet de Jean-Marc Ayrault, qui avait été relancé en 2000 par Jean-Marc Ayrault avec le soutien de Lionel Jospin. Et du coup, pour ce gouvernement, c'était un peu, pour le nouveau gouvernement, c'était un petit peu différent. Et donc c'est un gouvernement technocratique, et Emmanuel Macron, quand il a été élu, a tout de suite mis en place une commission d'expertise avec trois experts qui, le 13 décembre 2017, ont rendu un rapport qui recommandait l'abandon du projet et qui conseillait l'organisation d'une négociation pour créer une zone d'expérimentation agricole. Donc eux, ils n'étaient pas forcément sur une ligne de projet individuel comme ce qu'a demandé après la préfète. Par contre, ils recommandaient quand même l'expulsion parce que, bien sûr, le gouvernement doit rétablir l'état de droit. Donc voilà, ça c'était le 13 décembre 2017. Et puis le 17 janvier 2018, le Premier ministre Édouard Philippe a officialisé l'abandon du projet et a donné 3 mois, donc la trêve hivernale en fait, aux occupantes pour, entre guillemets, se régulariser. Okay. Il leur avait aussi laissé 2 semaines pour réouvrir la D281, qui était ce qu'on appelait la route chicanée, où il y avait toutes les chicanes, enfin la plupart des chicanes et des barricades, et qui était donc un peu un symbole de l'autonomie de la zone. Et du coup, ça, les occupants, alors c'était un peu confus, et moi je serais pas capable de vous traduire tous les débats et toutes les polémiques qu'il y a eu autour de ça, Mais en gros, la zone a été réouverte, la DDE a reconstruit la route. Et des négociations ont commencé. Alors, en fait, au début, c'était pas vraiment des négociations. Enfin, c'est d'ailleurs toujours pas vraiment des négociations. En fait, il y a eu un comité d'élus avec la préfète, la chambre d'agriculture qui se sont réunis sans représentants. Je crois qu'il y en avait peut-être un des associations contre l'aéroport et des occupantes autonomes. Et du coup, il y a eu ce jour-là un rassemblement devant la préfecture pour s'opposer à toute expulsion. Et en gros, c'est un peu comme ça que ça a commencé. La préfète a tout de suite annoncé qu'elle refusait les projets agricoles collectifs, ou en tout cas que si jamais les gens voulaient les maintenir, il fallait qu'ils s'enregistrent en fait. Alors moi, je connais pas toutes ces chambres-là. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait mieux en parler, mais ils s'enregistrent individuellement. Donc en gros, ce qu'ils voulaient, c'est avoir un ou une responsable qui pourrait attaquer en justice si ils respectaient pas les contrôles et toutes les normes qu'ils leur imposeraient, à s'enregistrer à, en gros, une espèce d'institution agricole qui enregistre les exploitations, etc. Et en échange de quoi, ils leur donneraient des conventions d'occupation précaire. Donc c'est ce qu'on donne aux squats d'artistes depuis le début des années 2000. C'est extrêmement restrictif et c'est contrôlé tout le temps. Et si on ne respecte pas les termes, on se fait virer.
D'accord.
Donc les gens ont refusé, la plupart, quelques personnes l'ont fait, mais très rares. La plupart des gens, alors des associations étaient plutôt pour, mais la plupart des occupants, enfin tous les occupants quasiment, ont refusé en fait de s'enregistrer individuellement. Ils voulaient le faire collectivement et ils ont aussi proposé un projet de COP collectif sur toute la zone, qui bien sûr est refusé par la préfète et dont elle se sert pour légitimer aujourd'hui les expulsions.
D'accord. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que du coup, il y a eu un processus qui, après le rendu sur l'abandon du projet d'aéroport, ben, en fait, ça s'est passé assez rapidement, c'est-à-dire mettre en place les conditions dans lesquelles on va expulser, ben, en tout cas, certaines habitations. Donc jusqu'à il y a peu de temps, on avait l'impression que le gouvernement, enfin en tout cas les autorités, jouaient sur un rapport en fait de division avec d'une part des collectifs, des groupes qui accepteraient de s'institutionnaliser et d'autres non. Et en fait, ça a été remis un peu en cause par ce qu'on a vu depuis lundi, non?
Ouais, ça c'est un grand classique de diviser les bons et les mauvais squatteurs. Ça permet de légitimer la répression de ceux qui acceptent le moins de choses. Ceci dit, bon moi je me sentirais pas à l'aise de parler de toutes les polémiques qu'il y a eu autour de ces questions-là sur la ZAD. Il y a aussi beaucoup de textes qui ont été publiés qu'on peut trouver sur le site zad.nadir.org. Je pense que en fait, j'ai de plus en plus de mal à comprendre la stratégie du gouvernement parce qu'à la base, ils avaient quand même réussi à créer beaucoup de divisions. Il y avait beaucoup de soutien qui s'était désengagé un peu, qui commençait à se désengager de cette lutte-là après que le projet a été abandonné, en voyant qu'en fait tout le monde ne voulait pas négocier avec les uns. Et ils avaient annoncé d'abord qu'ils a priori, s'il y avait une expulsion, qu'il y aurait une opération d'expulsion, mais qu'elle serait partielle, qu'elle ne viserait aucun projet agricole et qu'elle se contenterait, bon, bien sûr, ils trouvent toujours un ennemi intérieur, en l'occurrence, ce qu'ils appellent les radicaux, je ne sais pas quel nom ils leur donnent, ça varie, mais bon, c'est toujours un peu plus ou moins la même figure.
Les djihadistes verts.
Ouais, les djihadistes verts, comme l'ancien président de la FNSEA avait osé appeler les opposants au barrage de Stevens quelques jours après la mort de Rémi Fraisse. Voilà. Et sauf que le déploiement militaire, donc quand même 2500 militaires, avec trois blindés, dont un a pris feu il y a 2 jours, des hélicoptères, des drones, enfin c'est quand même là ils ont une stratégie militaire beaucoup plus offensive et beaucoup mieux organisée que ce qui s'était passé en 2012. Déjà, ça, je pense que ça a choqué quand même les gens qui ne s'attendaient pas à ce que le gouvernement qui prétend négocier et qui pour l'instant n'a rien négocié du tout, c'est juste d'imposer son point de vue à lui. Ça, je pense que ça a ressoudé à mort le mouvement et surtout ça a tendance à organiser une convergence des luttes parce qu'on est quand même dans un contexte de mouvement social un peu dans tous les sens, avec des manifs énormes, des occupations sans précédent d'universités, etc. Donc c'est vrai que je ne comprends pas trop leur délire parce que je pense que ça les dessert énormément d'agir comme ça. Et il y a aussi un truc, c'est que la destruction des sans-noms, qui était un lieu assez médiatisé et qui était un gros lieu agricole, je pense que les associations paysannes, etc., ça les a bien remué. Et maintenant, il y a une solidarité de plus en plus forte entre les groupes contre l'opération policière. Quoi.
Alors, est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur cette opération policière? Est-ce que tu as des informations sur un peu en quoi ça consiste? Ça a commencé lundi matin, il me semble. Est-ce que vous savez un petit peu genre combien il y a de flics qui ont été mobilisés, comment c'est quoi leur stratégie, puis après revenir sur ce que c'est, enfin rapidement sur ce que c'est que la ferme des sans-noms, en quoi c'est symbolique en fait cette attaque là et en quoi ça va changer des choses dans en fait la mobilisation et la réponse apportée face à cette opération.
Alors pour l'opération militaire, c'est une opération militaire, donc 2500 gendarmes. Avec trois fourgons blindés, beaucoup de bâchers, etc. Ça paraît très impressionnant comme ça l'est. Ceci dit, en fait, bon, moi, c'est comme ça que je le vois, mais en discutant avec des gens un peu partout et puis sur place, en fait, c'est du spectacle, en fait. Là, c'est un spectacle du pouvoir, clairement. Le but, je pense, le but principal, c'est pas tant d'expulser la zone parce que. Bon, ça, je me permettrai pas de faire vraiment de projection, mais enfin, c'est quand même compliqué de l'expulser et surtout de la garder. Mais c'est surtout de faire du spectacle pour montrer que l'exécutif est fort, que même s'il a abandonné le projet, il maintiendra l'ordre. Et pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment cette dimension-là qui est très importante. Du coup, ils ont une stratégie militaire qui est beaucoup plus élaborée. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés lundi à 3h du matin. Ils sont installés massivement, du coup, sur la D281. Et en fait, ils ont commencé le premier jour, c'est allé très vite. Ils ont remonté la D281 et ils l'ont prise. En un jour et demi, en fait, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand ils annoncent un squat a été détruit, c'est souvent des cabanes. En fait, c'est des cabanes. Et du coup, il y a beaucoup de cabanes qui étaient déjà vides, en fait, qui étaient déjà abandonnées. Donc, sur les squats qui ont été détruits, il y en a beaucoup qui n'étaient plus occupés. Ça, c'est aussi quand même quelque chose. Après, il y en a plein qui l'étaient aussi, malheureusement, et qui ont été détruits, malheureusement. Mais voilà. Et donc, ils ont remonté la D281, et donc, le deuxième jour, et ça, c'est là que ça a vraiment surpris les gens, parce que personne ne s'attendait à ce qu'ils fassent ça, ils ont attaqué les sans-noms, et ils l'ont détruit. Les sans-noms, c'est un lieu qui était assez médiatisé, parce qu'il y avait énormément de projets agricoles dessus, et quand même un potager assez incroyable, des cerfs, des ânes, des moutons, une bergerie, enfin, il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été organisées là, des abeilles et tout. Et c'était des gens qui étaient assez actifs dans les alternatives agricoles, parce qu'il n'y a pas que des alternatives agricoles sur la ZAD, il y a aussi des gens qui veulent vivre en dehors de ces circuits-là, et puis même des circuits alternatifs agricoles, sans technologie, etc. Et ça, c'est des gens aussi dont il faut parler, parce que c'est aussi, ils ont fait aussi des choses super intéressantes sur place. Et c'était un peu eux souvent qui étaient désignés comme les mauvais squatteurs, parce que bien sûr ils sont moins facilement intégrables à quelque chose d'alternatif, on va dire, une forme alternative d'agriculture, de paysannerie, etc. Les sans-noms, ça a beaucoup choqué parce que personne ne s'attendait. En fait, en détruisant les sans-noms, l'État a montré qu'il ne respecterait pas, qu'il n'était pas dans une démarche de négociation du tout, même si on s'en doutait déjà un peu vu comment ça se passait, et qu'il ne respecterait pas ce qu'il avait dit, c'est-à-dire ne pas détruire les lieux agricoles, etc., etc. Et du coup, la CIPA et les différentes organisations paysannes qui soutiennent la lutte, et aussi, je pense, des élus, etc. Après, j'ai pas suivi tous les médias, parce que j'avoue, je suis un peu dans l'urgence depuis quelques jours. Je pense que ça je sais pas comment dire, mais ça a réveillé quelque chose, quoi. Ils se sont rendus compte que, en fait, ils étaient encore tous dans la même situation. face au pouvoir, face au gouvernement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à tout ce que tu disais. Ah oui, l'opération militaire, du coup, bah, après, elle est remontée. Donc, en fait, hier, c'était hyper violent. Moi, j'y étais. Du coup, ils ont remonté. Il y avait un front qui s'était construit depuis la veille autour d'une barricade qui coupait le chemin de Suez, sur lesquels il y a les fosses noires, les vrais rouges, l'agré et pas mal de projets agricoles, des lieux collectifs comme la Gourbi qui a été détruite ce matin, où il y avait la caravane Medix qui a été détruite ce matin aussi. Et ce chemin-là, il a été pris entre hier et aujourd'hui, et les militaires sont remontés, en fait, du coup, de la D280 par ce chemin vers la D81, où là, ils ont pris en étau la route des deux côtés. Mais il y a une barricade qui s'est mise, qui s'est construite, et franchement, le courage des gens est juste hallucinant. C'est assez merveilleux ce qui se passe, par contre, à ce niveau-là. Les gens sont vraiment déter et sont capables de créer des choses très vite et avec beaucoup de solidarité et de courage. Et c'est assez chouette. Il y a de plus en plus de monde qui arrive. Là, ils se préparent à attaquer. Ils sont autour de la Saulce. Je ne sais pas encore. Là, je n'ai pas vu ce matin pour l'instant. Ils n'avaient pas avancé plus haut. Mais c'est possible qu'ils essayent de remonter encore sur le chemin de Suez où, du coup, il y a des lieux comme Casquat, la Wardine, le Maquis. Des anciens habitants comme la maison des singes où il y a la châtaigne jusqu'à après Bellevue, donc il y a une ferme assez symbolique parce que c'est une ferme qui a été occupée par des organisations paysannes, notamment Copain 44. Et on ne sait pas en fait où ils vont s'arrêter. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de détruire, d'expulser, de détruire les maisons en dur, c'est-à-dire les fosses noires, la grès, même s'ils ont pris la route et qu'ils les ont du coup coupées du reste du mouvement. Pour l'instant, ils ne les expulsent pas, ils ne les détruisent pas. Donc, c'est possible que ça, ils le respectent. Ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas. Mais du coup, tout ce qui est habitat léger et mobile, pour l'instant, ils passent.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Et est-ce que tu as au niveau de la répression, est-ce qu'il y a des arrestations? Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce que
tu as des... Alors, au niveau des arrestations, j'avoue que je ne saurais pas trop dire parce que je n'ai pas eu le temps de regarder... Hier, il n'y en avait pas encore eu beaucoup. Faudrait regarder sur le site internet donc.nadir.org. Au niveau des blessés, bah, il n'y en avait pas eu beaucoup jusqu'ici. Et hier, ça a été ultra violent. Ils ont balancé énormément de grenades de désencerclement et assourdissants. Donc, ils sont des grenades explosives où il y a de la TNT dedans. Du coup, il y a eu un blessé grave au pied. Un blessé, il y a eu des tirs de flashball aussi pas mal. Je crois qu'il y a une personne qui a eu une blessure grave au visage. Et sinon, on décompte. Après, c'est difficile de dire parce que je ne sais pas c'est quoi comme blessure. Et on décompte, de ce que j'ai vu ce matin, 80 blessés hier.
Wow.
Mais ça peut être aussi, ouais, des gens qui sont pris des... vous savez, dans les grenades explosives, il y a des espèces de balles, de palets en caoutchouc. Ça peut être aussi des gens qui ont des bleus. De ça, c'est pas que des blessures graves, mais il y a eu quelques blessures graves quand même.
Ouais, et puis dans ce genre de contexte qui est un contexte d'urgence, qui est presque un contexte qui est ultra violent, il y a les blessures, il y a aussi un peu, du coup j'imagine que c'est un climat, comme tu disais, de courage et de solidarité, mais c'est aussi un moment de tension extrême où en fait on doit aussi gérer la solidarité dans des moments où on peut être même traumatisé en fait par ce qui se passe, parce qu'on comprend pas très bien ce qui se passe, quoi. Donc à côté des blessures physiques, il y a tout ce qu'on vit en fait, une temporalité qui est complètement différente dans ce genre de contexte à laquelle on... Et d'ailleurs, c'est bien de rappeler que en fait c'est important de toujours se préparer en fait à, même si on peut jamais être totalement préparé, mais à ce genre d'événement, quoi, et à ce genre de contexte.
Et en fait, sur le site du mouvement, donc vote.nadir.org, on trouve aussi des listes de matériel à amener pour soi, pour se protéger, des conseils juridiques et tout ça. C'est très, très bien fait. Il faut les lire avant et ça rassure beaucoup. Parce que là, je vous raconte aussi, moi, j'y étais hier. Du coup, j'étais sur les barricades de la D81 et du chemin de Suez qui protège la Saulce. C'était super violent, mais il y a quelque chose de très différent par rapport à la ville. C'est que c'est 1650 hectares, que c'est des champs et des forêts. Et que si à un moment ça va pas, en fait, tu te mets dans la forêt, là, t'entends les oiseaux qui chantent. Et ça, c'est très particulier. C'est vraiment super particulier à la ZAD. J'avais jamais vécu ça avant. Les gaz, des fois, on se retrouve pendant 20 minutes dans un nuage de gaz atroce. Et puis tout d'un coup, il y a un coup de vent et il n'y a plus rien. C'est très particulier, quoi. Donc en même temps, c'est hyper violent et en même temps, Il ne faut pas avoir peur de forcément de venir. Alors tout le monde n'est pas obligé de venir, on peut faire aussi des choses chez soi, n'importe quoi en fait qui peut soutenir la lutte, parce que c'est plus il y aura de monde qui montreront qu'ils sont contre, moins le pouvoir aura de latitude et moins il pourra faire de la merde en fait, parce qu'ils calculent aussi en fait l'impact de ce qu'ils font médiatiquement, stratégiquement, etc. Mais venir sur la zone, enfin moi j'y étais hier, quand ça va pas, on se recule et en fait on peut être à 10 mètres derrière les lignes de front et être assis par terre en train de jouer aux cartes. C'est très curieux quoi, c'est vraiment très particulier. Et on peut venir, il y avait des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, il y avait des personnes non binaires, etc. Et en fait tout le monde lutte ensemble, il y a plein de choses à faire, on peut faire de la bouffe, on peut ramener des médicaments, on peut... écrire un communiqué pour dire qu'on n'est pas d'accord. On peut faire. Il y a énormément de choses à faire sur place et en dehors pour soutenir cette lutte, quoi.
Une question tout à fait pratique, salut Prune. Donc pour venir, est-ce qu'actuellement il y a, comme il y a eu auparavant, des checkpoints et qui sont des blocages faits par les flics, par les militaires, et où ils laissent passer d'une manière arbitraire, où ils empêchent les gens de passer?
Alors, bon, déjà pour sortir de la zone, au cas où il y a des gens qui veulent venir et qui aient peur de ça, sortir, ça ne pose aucun problème. Hein. pour entrer sur la zone, c'est un peu plus compliqué, sauf que ça change tous les jours, donc il faut vraiment regarder le site internet. Hier, la D281, c'est pas la peine d'y penser. Elle est bloquée des deux côtés, les journalistes même ne passent pas. Donc là, c'est juste pas la peine d'y penser. La D81, je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, ça doit être bouché aussi. Et Vigneux de Bretagne, donc qui est à un des deux bouts de la D81, est encerclé par les militaires. Après, ils sont pas non plus méga nombreux à cet endroit-là. Ça, c'était hier. Je pense qu'il faut regarder sur le site. Et puis, on peut écouter Radio Klaxon aussi. Donc, 105.5 quand on est autour de la zone. Quand on n'est pas autour de la zone, c'est s'il y a un flux RSS qui est disponible sur le site internet. Aussi à Nantes, si vous voulez venir à Nantes, tous les jours devant la préfecture de Nantes, donc entre l'arrêt de bus Talensac et la place des 50 otages, il y a des camarades qui organisent un point info entre 10h et 18h où vous pouvez trouver, déjà parler avec des gens, vous renseigner sur la situation, écouter Radio Klaxon, avoir des cartes, des listes, comment faire, enfin trouver des conseils juridiques, comment faire pour aider, qu'est-ce qu'il faut amener sur la zone, etc. Donc ça peut être pas mal si jamais vous arrivez à Nantes de passer d'abord par là pour savoir justement comment rentrer sur la zone et ce genre de choses. Moi hier je suis passée par les champs mais j'ai pas pris le bon chemin, donc ça a mis une heure et demie, donc je conseille de se renseigner avant. C'est vachement mieux.
Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu as envie de rajouter
Oui, je voulais dire qu'au niveau des actions de solidarité, on le voit sur le site internet de la ZAN encore une fois, il y a énormément d'actions de solidarité en France et à l'étranger qui se conduisent partout. Ça peut être simplement des pétitions, ça peut être des conférences de presse, des trucs un peu comme ça. Ça peut être aussi des actions, des manifestations, des sabotages. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites. Il y a des messages de soutien qui arrivent de partout, de la Palestine, du Mexique, d'Allemagne, etc. Le mouvement aussi des cheminots, des universités, etc. est de plus en plus solidaire de ce qui se passe ici, lance de plus en plus d'appels et met de plus en plus d'informations autour de ça. Sinon, consultez vraiment le site pour avoir des informations, écoutez la radio. Et puis, là, il y a deux dates qui arrivent très prochainement. Il y a une manif à Nantes, place du Cirque, ce samedi à 16h30, sachant que c'est un jour de carnaval, parce que c'est le carnaval de Nantes cette semaine, et que samedi soir, c'est un carnaval de nuit. Donc pourquoi pas venir déguisé. J'appelle aussi les batoukadas, les clowns, tous les gens qui ont envie de converger. Plus il y aura de monde, plus on montrera à l'État qu'il ne peut pas faire n'importe quoi sur place. Et le dimanche 15, et ça, faudra vérifier sur le site internet, parce que pour l'instant, l'info est pas encore claire, parce qu'ils savent pas encore où ça on sera à ce moment-là. Mais il y a un appel à convergence sur la ZAD, pour relever les bâtons, parce que le 8 octobre 2016, il y avait eu une manifestation, où, je crois, quelque chose comme 30 000 personnes étaient venues planter des bâtons sur la zone, en faisant le serment que si un jour elle était expulsée, ils reviendraient les chercher. pour défendre, défendre l'occupation de la zone. Du coup, dimanche 15, donc le lendemain de la manif de Nantes, donc pourquoi pas venir passer le week-end ici, sachant que le point info que je vous ai donné, donc qui se tient devant la préfecture de 10h à 18h tous les jours, organise aussi des hébergements sur Nantes, des covoiturages et ce genre de choses. Vous pouvez les contacter sur Indie Media Nantes, il y a leur numéro de téléphone et leur, leur site internet, leur adresse mail. Donc voilà, et puis sinon, quoi qu'il arrive, la lutte n'est pas finie, elle est très très loin d'être finie, il y aura probablement, moi j'en suis sûre, reconstruction, continuer à suivre, continuer à faire des choses, et c'est bientôt les vacances scolaires, donc pourquoi pas venir construire des cabanes bientôt, replanter des champs, ça peut être pas mal, voilà.
Ok, ben merci, peut-être que... Bah, peut-être qu'on va s'arrêter là. Merci pour toutes ces informations, pour cette envie de venir à la ZAD aussi. Donc, appel à toutes les forces de venir à la ZAD. Bah, merci, du coup, on va te laisser. Puis, puis à bientôt, on se tient en courant sur, sur le site.
Peut-être merci juste rajouter aussi, dire aux gens qui sont donc sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes que hier, ça a été hier mercredi 11, c'était une journée où plusieurs mairies ont été prises d'assaut et qu'ici, donc aux environs de Toulouse, c'est la mairie de Saint-Sulpice sur la Pointe, dans le Tarn, qui est en fait, paraît-il, c'est le seul maire qui est donc de la République en marche, de toute la France, ce qui amène aussi à réfléchir que si c'est le seul maire de la République en marche en France, c'est qu'ils sont les République en marche n'est pas si implantée sur les territoires. Et donc, la mairie a été occupée par des copains et on les a passés hier en direct à l'antenne. Et voilà, vous dire que voilà, ça bouge un peu de partout.